My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Oups, on retrouve à l'instant Brigitte et Eric. Comment allez-vous, Brigitte et Eric, ce matin?
Salut, Manon. Ça va bien, oui.
Présent?
Bon, maintenant, il y a du son?
Il y a du son.
Ça va super bien.
Oui, super bien. Ce matin, il y a un beau sujet, hein, parce que c'est une question qui est beaucoup posée, ça, j'ai l'impression, de faire la distinction entre un randonneur puis un pèlerin.
Mm-hmm. Oui, puis en même temps, je t'écoutais quand tu faisais l'introduction tantôt, puis je me dis, c'est important de se rappeler, aussi, on va faire la distinction entre les deux, mais de se rappeler aussi que le pèlerin, c'est affranchi du cadre religieux. Donc, on n'est plus en train de parler d'une expérience religieuse, ça ne l'exclut pas, mais il y a autre chose aussi, plus large, une spiritualité plus élargie, je dirais une spiritualité laïque, si ça se dit, quelque chose qui nous rejoint dans le quotidien de nos vies, sans allégeance religieuse particulièrement, une spiritualité au sens large du mot.
Là. Le pèlerin, comme on le retrouve sur les chemins de Compostelle aujourd'hui ou sur les chemins chez nous, chemin des sanctuaires, chemin des navigateurs. Alors, sont-ils randonneurs? Sont-ils pèlerins? Deviennent-ils pérégrins? C'est la question qu'on va traiter aujourd'hui.
Bien, c'est justement ça que je me disais. Est-ce qu'il y a une distinction à faire entre pèlerin et pérégrin?
Oui, ben c'est ça. C'est qu'en fait, Bottevélo s'appelle Bottevélo le pèlerin dans tous ses états. Fait que c'est dire justement qu'on traverse des états, que de se lancer dans une expérience pèlerine, on va traverser toutes sortes de ressentis. Ça va nous faire vivre des choses qui vont nous remettre en question. Alors, faut vraiment revenir à ça, au fait que c'est une expérience d'abord et c'est pas un sport particulièrement. Donc, je peux vivre une expérience pèlerine dans différents contextes. En ce moment, on le vit beaucoup, on l'observe beaucoup à travers des marches de longue durée du type Compostelle où on va parler d'un pèlerinage. C'était un pèlerinage religieux à l'époque, mais aujourd'hui, ça s'est affranchi de ce cadre-là pour vivre une spiritualité hors des cadres religieux où c'est la personne elle-même qui est remise en question, qui est questionnée sur le sens de sa vie, sur sa manière d'être en relation avec les autres, avec elle-même, avec l'univers en général.
Oui, tu avais quelque chose à dire, Brigitte?
Oui, c'est parce qu'on a regardé, parce qu'on a discuté, on a débattu du sujet avant d'en parler avec vous, parce que je disais, un randonneur, c'est quelqu'un qui part pour une courte durée à pied, mais quand on va regarder qu'est-ce qu'un randonneur et qu'est-ce qu'une randonnée, on peut faire une randonnée en voiture, on peut faire une randonnée à vélo, on peut la faire à moto, fait que finalement, le randonneur, quand on pense, il n'est pas juste à pied, et le pèlerin, il n'est pas juste à pied non plus. Mais dans le cas dans lequel on va traiter, on va les comparer les pommes avec les pommes, fait qu'on se dit, le randonneur à pied et le pèlerin à pied, qu'est-ce qui les distingue?
Puis, ce qui va être important, c'est ça, c'est de voir justement comment le pèlerin, il est déplacé. C'est qu'il y a ça, il y a cette idée de mouvement derrière l'expérience pèlerine, c'est comment ça me bouge, mais comment ça me bouge intérieurement. Comme Brigitte a dit, on peut se retrouver randonneur de toutes sortes de façons, pas nécessairement à pied, mais c'est que ça nous déplace. C'est ça qui est l'idée derrière l'expérience pèlerine. C'est qu'il y a quelque chose qui va me faire changer de perspective, de manière de voir, de concevoir les choses.
on remarque souvent, il y a des gens, même ici, là, sur le chemin des navigateurs ou des sanctuaires, même le chemin des Outaouais, ils disent pas « je m'en vais faire un pèlerinage ». Forcément, au départ, c'est pas, peut-être pas la première chose qu'ils disent. Puis finalement, à travers le voyage, quand ils terminent, ils vont dire, comme sur le chemin de Compostelle, « je pense que je suis devenue pèlerin », puis ils vont se nommer pèlerin. « Je suis rendue un pèlerin, moi, je m'en vais pèleriner. » Puis « ah, mais qu'est-ce qui fait que finalement, la personne, elle dit pas « je suis un randonneur ».
Oui, pourquoi qu'on ne dit pas ça?
Est-ce que ça s'est changé?
C'est ça. Mais il y a quelque chose à un moment donné qui va se produire qu'on dit c'était pas juste. Parce que le randonneur, bon, c'est une forme de voyage, c'est un ça peut être un sport aussi, aller faire de la randonnée en montagne, ou comme on fait une randonnée en moto, ou, ben c'est de profiter d'un temps, d'un moment. Mais tout à coup, tu te rends compte qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train de se jouer. Puis le mot randonnée ne suffit pas pour décrire l'expérience que tu es en train de vivre. Il s'est joué autre chose à ce moment-là, puis tu as besoin d'un autre mot pour le décrire. Beaucoup de gens ont de la difficulté avec les mots pèlerinage, pèlerin, parce que à cause de leur connotation religieuse. Mais les mots pèlerinage comme tel, le mot le pèlerin, ou le pèlerinage, c'est tout ce que ça désignait à l'époque, les premiers temps, quand le mot est apparu chez les Romains de l'Antiquité, ben c'était un étranger, c'était un être qui était en voyage, qui était en déplacement, qui arrivait avec une manière de vivre autre, qui parlait une autre langue, qui vivait autrement. Alors, c'est tout ça qui est derrière l'idée du pèlerin. C'est devenu religieux par après pour exprimer une expérience spirituelle qui voulait dire ben, « je suis déplacé, je suis en voyage, je suis en train de traverser ma vie comme un voyage vers un ailleurs, un meilleur qui m'appelle ». Bon, on était dans un contexte chrétien-catholique à cette époque-là, donc on se disait en route vers Dieu, vers le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, l'expérience pèlerine, dans sa spiritualité, va parler aussi d'un déplacement. Il y a quelque chose qui s'est changé, qui a été transformé, puis c'est là que je ne peux plus dire juste randonneur. On va l'entendre tout particulièrement aujourd'hui avec Compostelle. C'est là que c'est intéressant, c'est que si les gens ont de la difficulté à dire pèlerin ou pèlerinage, ils ont besoin d'un autre mot pour dire autre chose que randonnée. Puis ils vont se mettre à dire Compostelle. J'ai fait un Compostelle. Au lieu de dire j'ai fait une randonnée, ils vont dire j'ai fait un Compostelle dans telle région. J'ai fait un Compostelle en France. J'ai fait un Compostelle au Japon. J'ai fait un Compostelle en Gaspésie. Bien, c'est quand je dis Compostelle, je suis en train de dire que c'était pas juste une randonnée que j'ai vécue. Il y a eu autre chose qui s'est passée. J'ai vécu ça d'une certaine manière et c'est cette expérience-là que j'essaye de nommer à travers ce mot-là. Puis dans ce mot-là, bien, c'est ça, il y aura différents états qu'on va traverser. Excuse, je t'ai coupé.
Non, c'est correct. Petite question, Éric, qui est rentré. Moi, je fais du hiking que samedi. Ça se situe où dans ce que vous nous parlez ce matin?
Bien, je pense que le hiking fait partie de tous les types de randonnées qui peuvent se faire. Puis l'expérience pèlerine peut apparaître en hiking aussi.
Comme elle peut apparaître, on a quelqu'un qui a fait la traversée, il faisait du bateau, de la longue durée en bateau. Bien, il a mané, il dit tous les états pèlerins dont tu parles, je les ai vécus. Moi, je crois qu'on va distinguer le randonneur et le trekker du pèlerin parce que le randonneur et le trekker, ils sont plus dans. Qu'est-ce que je fais? Alors que le pèlerin, ça va être plus dans le comment je le fais. Et on peut devenir. Le pèlerin, c'est plus une manière d'être au déplacement qu'on est en train de vivre, une manière de se mettre en relation. Tout comme j'ai le goût de dire, celui qui est randonneur va dire: ah, mais je ne suis pas touriste. Mais pourtant, tu rentres dans les églises, tu fais les dégustations du terroir, tu fais le détour par le petit musée, mais tu dis que tu n'es pas touriste. Ah, qu'est-ce qui le distingue? C'est tout est dans la manière dont comment je me définis par rapport à l'environnement que je suis en train de traverser.
Est-ce que le trekking serait plus, de ce que moi j'en perçois, est-ce que ça serait plus dans la performance et le Compostelle, le pèlerinage, plus dans la sérénité, dans la spiritualité?
Je pense pas que ceux qui font un trek, ceux qui font la Appalachian Trail vont dire ça parce qu'ils vont dire « Ah, tu sais, on se retrouve dans la nature, on est dans un bain de silence, on se retrouve avec soi-même. » Fait que l'espace de spiritualité va s'ouvrir à partir du moment où c'est ce que la personne tend à faire. Mais si la personne a dit, ben moi, j'y vais pour le dépassement, je fais des kilomètres, je porte un sac, je suis dans l'expérimentation aussi de tous mes accessoires dans les refuges, dans mon matériel de cuisine, ben là, la personne est dans sa performance, est probablement plus randonneuse et trekkeuse que pèlerine. Tout va vraiment dépendre dans la manière dont j'aborde le chemin que je suis en train de faire.
Oui, il y aura
Eric, il y a une bonne part.
Ben, il y a une bonne part, c'est que du hiking, trekking, peu importe les mots qu'on va employer, on est en train de dire le type d'activité qu'on est en train de faire. Fait que si on dit du hiking ou du trekking, on va dire qu'on est en train de faire une randonnée, on est à pied avec le sac à dos, c'est le modèle, tu sais, c'est qu'on est en train de faire. On peut partir aussi en moto, comme on le disait, on peut partir en bateau, on peut partir dans un voyage une randonnée kayak, là, tu sais, on va avoir différents modèles qui vont voyager, qui vont se déplacer, mais tout à coup, il y a autre chose qui embarque pour dire, ça a dépassé juste le sport ou l'activité. Il y a autre chose qui est... c'est à ce moment-là qu'on commence à parler d'une expérience pèlerine où on va parler de qu'on se sent plus pèlerin. Donc, quand je parle que je suis pèlerin, je vais davantage porter attention à ce qui a changé intérieurement dans ma manière d'être. Je me sens plus à la même place dans ma vie. C'est ça qui a changé. C'est pas le mouvement physique sur les voyager d'une ville à l'autre. C'est un déplacement. Mais là, tout à coup, je me rends compte que intérieurement, il y a quelque chose qui a changé. J'aborde plus la vie de la même façon.
Comment je me suis laissée transformer par l'expérience physique dans laquelle je m'étais embarquée? Que je suis allée là pour vivre, est-ce que je suis allée là juste pour vivre le déplacement et l'aventure, mais en même temps, est-ce que je constate que il y a un lâcher-prise? Je pourrais être, j'ai le goût de dire, souvent, on va embarquer dans l'état pèlerin à partir du moment où on lâche d'être dans le contrôle pour embarquer dans un espace de confiance puis se dire, regarde, je l'ai déjà vécu, ça va bien se passer, on trouvera une solution. Puis j'embarque dans cet état où je ne suis plus à la recherche de maîtriser l'extérieur, mais plus être en harmonie avec ce qui se présente. Puis si je suis pas capable de faire les 25 km jusqu'au refuge ou si je suis pas capable de faire les 15 km jusqu'à l'auberge ou je vais trouver une solution, je vais m'adapter, je vais prendre un bus, je vais faire du stop, je vais appeler quelqu'un, j'accepte de lâcher prise sur ma performance.
Oui, ça parle ce que tu as dit là, et ceux qui étaient à mon atelier conférence hier, parce que j'ai parlé un peu de mon chemin de Compostelle, vont tellement se reconnaître et reconnaître les choses que j'ai mentionnées hier. Vous l'expliquez d'une façon différente, mais c'est tellement ça, là. J'adore ce que vous nous dites ce matin. Et de passer à cette expérience-là, c'est tellement grandiose, Brigitte et Éric, là.
Oui, bien c'est ça, c'est que quand tu dis c'est grandiose, c'est parce que ça a eu un effet. Hein, sur soi, c'est pas juste un voyage. Il y a autre chose qui s'est joué, qui m'a déplacé. Je suis tombé l'autre jour sur un article une entrevue avec Jeff Boudreau, un comédien québécois, qui parlait, c'était en 2022, là, ça fait 2 ans de ça, mais il disait il racontait un voyage à moto qu'il a fait où il a traversé l'Amérique, il est parti de la côte est vers la côte ouest en moto, il a fait ça aller-retour. Puis il dit à un moment donné dans son entrevue, il dit « Je voulais faire un Compostelle à moto, puis je pense que j'ai réussi. » Puis après ça, il se met à décrire qu'est-ce qu'il a fait. Il dit « J'ai exploré des parties de moi qui m'étaient un peu moins connues. Je me suis découvert autrement. » Puis là, c'est là qu'il se met à entrer. OK, on n'est plus juste dans le voyage, il est en train de décrire le voyage intérieur qu'il a fait à travers tout ça. Ça a eu un impact sur lui. Il essaye de décrire à travers ce qu'il nous raconte là, mais ça dépasse largement la moto. C'était plus juste de la moto. Il aurait pu juste parler de son voyage à moto puis nous raconter comment on se prépare à moto, à quoi je dois... tout le niveau mécanique, à quoi je dois penser parce que je vais faire quand même 10 000 km aller-retour. Qu'est-ce que je dois...
Là, on est dans le randonneur dans ce temps-là.
Ben, on est plus juste dans le côté technique.
C'est ça, le randonneur. Mm-hmm. Si on se limite, parce que c'est pas péjoratif, mais celui qui est randonneur, puis c'est une étape
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Normal dans le déplacement vers Compostelle, si je veux me rendre de faire mes 800 km, il va falloir à un moment donné que je sois randonneur, donc que je rentre dans l'état technique et que je dise « OK ». Là, il faut que j'apprenne à soigner mes pieds de telle manière, faire mon sac de telle manière, gérer mon chemin de telle manière. Puis, tant que je suis là-dedans, là, je suis dans l'organisation, j'ai pas accédé, je suis pas en train de me questionner sur vers où je veux aller dans ma vie. Je suis encore dans le terrain. Et à partir du moment où ça va être réglé, puis que j'entre dans un état qui est autre et que je peux vivre quand je suis un trekker aussi et que là, je marche, puis là, je revisite, comme il disait, là, Eric, les différentes facettes de ma vie, puis comment je veux que ce soit à mon retour, puis comment j'ai le goût d'enligner mes flûtes, puis qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce que j'aimerais qu'il y ait plus. Là, j'embarque dans le volet pèlerin.
Puis là, comme on parle, on entre dans le volet pèlerin, mais une des choses qui distingue particulièrement l'étape pèlerine, l'étape, le moment où je me sens vraiment pèlerin, c'est que je lâche prise sur l'expérience que je voulais contrôler. Quand j'ai un voyage que j'organise, que je cédule toutes mes étapes, que je sais où je vais dormir, je sais comment ça va se passer, j'ai des attentes face à la météo, aux gens que je vais rencontrer, puis tout à coup, je me rends compte que ça ne peut pas se produire comme j'avais pensé, qu'il y a toujours quelque chose qui va m'échapper, bien, c'est là que je deviens pèlerin, puis que j'accueille ce qui est en train de se produire, puis comment ça va me parler. À travers ça, il y a quelque chose qui va se produire. Ça parle de moi, ça me fait réagir de toutes sortes de façons. Ça peut être de la joie, de la peine, de la colère, peu importe. Il y a quelque chose qui va se produire, puis ça me parle de moi. Puis là, ça va être à explorer.
Qui va se produire ou qui ne se produira pas.
Oui.
Parce que quand même, ça, dans les compostelles, quand on fait un compostelle d'un 800 km de marche à travers un pays, ben il y a quand même une personne sur quatre qui abandonne. Pour différentes raisons, mais si j'ai abandonné, c'est probablement qu'il y a un bout de moi qui n'est pas capable, qui n'a pas été capable de lâcher prise, d'accepter de faire autrement. Je me suis blessée parce que j'ai poussé la machine, parce que j'ai voulu me montrer à la hauteur, j'ai pas voulu décevoir, j'ai voulu performer. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a une personne sur quatre qui n'entrera pas dans cet état pèlerin. Parce que ça prend à peu près une dizaine de jours, le temps d'avoir réglé toutes les situations de base, d'être passé par le volet touristique où je m'extasie de tout. Et puis, ça prend une dizaine de jours. Fait que quand je pars juste une semaine, je dois juste rester probablement touriste.
Ça va être important, justement. C'est ça, c'est que je le traverse, cet état de je vais me préparer, je vais devenir meilleur dans tout l'aspect technique, mais je vais avoir besoin de décrocher tout ça à un moment donné pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer. Puis si je décroche pas, bien, c'est ça, c'est qu'au bout d'une semaine, je vais abandonner. Puis c'est beaucoup de gens quand même, là, 25 % des gens qui abandonnent, une personne sur quatre qui abandonne au bout d'une semaine parce que il y a quelque chose qui n'arrive pas, je ne suis pas capable de dépasser finalement. Là. Parce que c'est vraiment dans la durée que ça va se jouer. Jean-Christophe Ruffin, qui a écrit Immortelle randonnée, disait Compostelle, il dit une semaine, c'est des vacances. Au-delà d'une semaine, il dit ça devient autre chose. Quand j'arrive à 8e, 9e, 10e journée, là c'est le fait de persister dans le temps, dans cet exercice-là, dans ce long voyage-là, peu importe comment il va se faire, qu'il soit à moto, qu'il soit en auto, qu'il soit à pied, qu'il soit en bateau, c'est la durée d'être sorti de chez soi longtemps, de ses habitudes, de ses routines, pour se laisser déranger. Il y a quelque chose d'autre à fréquenter des gens qui vivent autrement, qui remettent en question mes manières de vivre. Quand, à un moment donné, j'en viens à considérer que c'est ça qui est la norme, c'est ça qui est normal, ce que je vis. Puis tout à coup, à fréquenter des gens qui vivent autrement, bien, ça me fait voir que, ah ben non, il y a possibilité de penser, d'agir, d'être autrement.
Juste d'être un Québécois qui soupe à 5h30 et de se retrouver condamné à souper à 8h30 quand on va en Europe. Puis 8h30, je suis généreuse, hein, parce que des fois, c'est 9h. Et ça se peut que ça me dérange, puis que ça me bouscule dans mes habitudes. Puis comment je vais composer avec cette différence-là? Est-ce que je vais y résister ou est-ce que je vais céder? Qu'est-ce que je vais faire?
Bien, pendant une semaine, habituellement, on compose avec. C'est à long terme que ça change. Je suis entièrement d'accord avec vous autres. Et quand on part une semaine, bien, on ne sort pas beaucoup de notre zone de confort. On part souvent faire une semaine de vacances.
Oui.
Oui, ici, c'est là, juste décrocher un peu, décompresser.
Oui.
Au-delà mais, de tout ça, c'est là qu'on embarque dans une expérience qui est autre.
Qui est une expérience transformatrice, hein, parce que les études le disent, ça prend 21 jours pour faire une transformation. Fait que c'est sûr qu'en 5 jours, ben, j'ai goûté quelque chose de bon, mais je reviens, je suis la même personne. Hein. Après une semaine, la personne qui va dire « Mon Dieu, t'as donc bien changé! » Alors qu'après un Compostelle ou après un trek dans les Appalaches, ça se peut très bien que je revienne transformée parce que il y a des choses que j'ai mis en place, que j'ai revisité, que j'ai resitué, puis que je reviens avec la ferme intention de transformer dans mon quotidien. Je ne suis plus la même personne à la fin.
Puis d'ailleurs, au bout de tout ce cheminement-là, on va parler les différentes figures qu'on aborde pour dire les états du pèlerin. On parle du touriste, du randonneur, du pèlerin. À un moment donné, j'arrive dans mon expérience, dans mon voyage où je deviens pèlerin. Mais le retour, on va parler du pérégrin. Puis ça aussi, c'est intéressant parce que le pérégrin, c'est celui qui va être capable de revenir dans son environnement en ramenant cette liberté qu'il est allé chercher à travers son expérience. Le pérégrin, encore une fois, à l'époque de la Rome antique, ce que ça désigne, ce n'est pas un citoyen romain, ce n'est pas un esclave, c'est un être libre dans la cité conquise. Donc, juste ça, de revenir dans la cité conquise d'aujourd'hui et conquise de toutes sortes de façons, puis de dire, je vais être capable de me comporter comme un être libre dans tout ça, c'est pas évident ça aussi. D'avoir intégré, ça fait que ça demande là aussi encore de cheminer pour ramener ça dans le quotidien de sa vie. Donc, le pérégrin, l'étape ultime, c'est de revenir dans la cité conquise en pérégrin.
Oui, parce que souvent...
Et de ne pas retomber dans nos patterns, c'est ça, hein?
Exactement. C'est ça. Puis, c'est de retomber dans les patterns, oui, oui, mais des fois, c'est de ne pas céder,
d'être confrontée.
Oui, je suis confrontée, puis ça va me demander un effort de continuer d'être la personne que je me suis découverte sur le chemin. J'ai une anecdote très de base. Hein. On est dans un pèlerinage, on a une dame avec nous qui porte sa tuque tout le temps, puis à un moment donné, elle dit, là, ça se peut pas, enfin, j'aille chez la coiffeuse, je commence ça. Mais elle dit, mais c'est parce que moi, je prise comme pas possible, puis ça fait depuis que j'ai 13 ans que je me raidis les cheveux. Elle dit, là, je peux pas supporter, mais dis-nous, on t'a jamais vu autrement que comme ça. Alors, elle a assumé ses bouclettes qui lui allaient super bien, mais quand elle est revenue chez elle, elle a dit, ben quand je vais au travail, je me raidis les cheveux, mais le reste du temps, j'assume mes bouclettes. Mais ça a été, c'est niaiseux, là, mais ça parle. Ça, c'est un comportement observable. Mmh. Et sur le chemin, elle vivait très bien avec sa tête d'origine, en quelque part. Mais ça a demandé un travail de ramener ça à la maison. Et c'est ça, c'est le travail de garder la personne que je me découvre être en vérité sur le chemin. Ça doit être pareil quand on fait un trek, je reviens avec ça parce que la personne a posé une question, mais je me dis, tu vas découvrir un rythme de vie que tu aimes. Bien, ce rythme, tu peux te le mettre dans ton quotidien. Tu as découvert des choses que tu as aimé goûter sur ton chemin. Bien, ça se ramène dans le quotidien. Puis c'est de se demander comment je le ramène pour que ça continue de me correspondre. Ça, c'est un travail.
Oui, puis Éric et Brigitte, parfois dans vos chroniques, vous nous parlez de la lecture, hein, du chemin. Donc, c'est comme si on lit un livre, mais qu'on ne fait rien avec.
Donc, oui, là, on en lit plein de romans comme ça.
C'est ça, vous nous invitez à faire la lecture, mais à en retirer quelque chose après et à appliquer quelque chose de nouveau dans notre quotidien.
Oui, parce que c'est ça, on en lit plein de romans qu'on a trouvé beaux, tout ça, mais ça en reste là. Mais l'expérience pèlerine, quand c'est là qu'elle entre ou qu'elle agit, c'est que je me rends compte que je ne peux pas en rester là. C'est comme si je vivais dans une pièce où il fait noir continuellement, tout à coup, j'allume la lumière, puis je vois ce qu'il y a là, puis je referme la lumière. Je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas, je l'ai vu à cette heure. Oui. Même si je reviens chez nous à noirceur, je le sais que ça existe, qu'il y a autre chose. Fait que c'est là que j'ai à me laisser travailler. Et une bonne part de l'expérience, ça va être ça, de rester flexible, malléable face à ce qui me provoque, parce que c'est ultimement ce que je découvre à travers l'expérience pèlerine, dans cette provocation qui est extérieure. Quand j'écoute intérieurement ce que ça fait, le goût que ça laisse, je me rends compte que ça me permet de découvrir davantage qui je suis, d'assumer davantage pleinement ce que je suis.
De l'assumer, de le dévoiler, de le révéler. Mm-hmm. Quand on parle longtemps, à un moment donné, là, j'ai parlé des bouclettes, on peut parler du maquillage, de l'habillement. C'est tout superficiel, ça, mais ça parle de comment j'accepte de juste être, puis de laisser aller aussi mon caractère, mon tempérament.
Oui, ça peut être des goûts, des préférences que j'ai, puis que j'ose pas manifester aux yeux des autres parce que j'ai peur de ce qu'on va dire, ce qu'on va penser de moi. Puis là, tout à coup, je me rends compte, ben non, là, je m'éteins si je continue comme ça.
Parce qu'après plusieurs jours de marche, avec la fatigue, avec l'usure, il y a des choses qui prennent la personnalité prend le dessus, les superficialités prennent le bord. Et puis là, je vis avec beaucoup de liberté sur le chemin. C'est quand je reviens, comment je continue de l'assumer.
Vraiment.
Et le pèlerin, c'est le gros défi du pèlerinage.
Oui, l'être libre dans la cité conquise.
Et avec Bottes et Vélos, ben, ça nous permet de prendre conscience de toutes ces étapes-là qu'on traverse. Et où on se situe aussi, parce que peut-être qu'on ne les a pas toutes traversées, hein, ce n'est pas tout le monde qui a fait plus de 10 jours sur les chemins. Mais ça nous permet de voir où on est, ça nous permet de voir jusqu'où on veut se rendre aussi.
On ne le vit pas tous de la même façon, fait que c'est ça. Il ne faut pas non plus en faire une norme, là, hein, dire c'est comme ça que ça va se passer, puis il faut que tu suives. Non, on n'est pas là non plus. On essaye de décrire, ça ressemble à, c'est comme ça, mais il ne faut pas en faire une recette qu'on va appliquer, puis qu'on va suivre, puis on se dit hey, « non, là, j'ai pas vécu cet état-là, j'ai pas vécu cette étape-là, j'ai manqué quelque chose. » Non, non, c'est pas ça. Mais soyez attentifs à ce qui se passe, à ce que vous vivez, aux effets de l'expérience. C'est là-dedans, c'est là que ça se joue. Comme on disait tantôt, c'est une lecture, c'est un livre, je m'en vais lire, mais ce livre-là, il me percute, il me travaille de l'intérieur, il me questionne, il m'interroge, il me remet en question. C'est là qu'il faut que j'aille. Faut pas que je fasse juste passer à autre chose. Il faut que je me laisse travailler là-dedans.
Puis qu'est-ce que j'ai goûté de bon dans mon expérience? Puis je reviens avec le fait que ça peut être un trek, mais ça peut être l'idée, c'est de partir longtemps. Moi, je connais quelqu'un qui est parti faire de l'aide humanitaire là, en Amérique centrale. Partir un mois, ça va être dans le dérangement aussi. Qu'est-ce que j'ai goûté de bon et qui, même si je suis pas en Amérique centrale, je vais le ramener au Québec. Je vais en remettre dans ma vie. C'est quoi? C'est l'accompagnement des enfants. C'est bâtir quelque chose de mes mains. C'est la vie communautaire. Il y a quelque chose que j'ai aimé qui me correspond. Ben, comment je ramène ça dans mon quotidien?
Merci Brigitte et Éric pour cette belle chronique ce matin. On se retrouve le mois prochain pour une dernière avant les vacances estivales.
C'est vrai, déjà les vacances.
Avril, mai, juin. Non, on va peut-être avoir le temps d'en faire deux. Je suis trop vite, là. On s'en va au mois de mai. On va avoir le temps d'en faire deux, peut-être. Je me souviens plus, je n'ai pas regardé. On verra tout ça. Bref, il en reste au minimum une. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Ça fait plaisir. À bientôt.
Bye-bye.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.